Biston klack, biston klack, biston klack, nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre, cette phrase est notre devise. Notre devise, biston klack, biston klack, biston klack, d'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie, tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre, voilà notre philosophie. Philosophie, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
Bonsoir, notre émission de ce jour est la première d'une nouvelle série de 3 émissions consacrée à Roger Gaget, à qui nous rendrons hommage. Roger Gaget est un tararien né le 12 février 1923, donc âgé de 88 ans au moment de cet entretien. Il avait 17 ans en 1940 et il dut subvenir à ses besoins et se mit à travailler. Mais en novembre 1942, face à l'invasion de la zone sud, sa conscience va lui imposer de se mettre en action contre l'occupant de son pays, et comme il nous le compte, il a fini par trouver le moyen, avec pas mal de difficultés, comme c'était souvent le cas, de s'engager au maquis, coupant du même coup toute relation avec sa famille et ses amis. À partir de là, sa volonté de se battre fera de lui un combattant du réseau Périclès, et basé dans le Haut-Jura, il restera un maquisard combattant clandestin jusqu'à la fin de la guerre, avant de reprendre sa place de citoyen dans la vie civile. Nous allons donc évoquer son parcours et ses luttes au fil de ces 3 émissions. Cette première émission est consacrée plus précisément au thème de l'histoire de sa jeunesse, puis de son engagement au maquis, que nous évoquerons là jusqu'à la période de mars 1944. Merci de votre attention et bonne écoute.
Ne te fâche pas contre Tara.
Monsieur Gaget, bonjour. Je vous remercie de me recevoir pour Radio Canut pour parler de votre expérience de la résistance jusqu'à la libération. Enfin, je vous propose de vous présenter un petit peu en nous racontant où vous êtes né, que faisaient vos parents et comment s'est passée votre enfance.
Voilà, je suis né le 12 février 1923 à Tarare.
À Tarare,
exactement. J'ai eu le malheur de perdre mon père à l'âge de 5 ans. Et j'ai été élevé par ma mère, dans des conditions, bien entendu, assez difficiles à l'époque. Mais enfin, j'étais choyé malgré tout, comme un enfant gâté, malgré les difficultés financières. Et je suis resté là jusqu'à la guerre.
École primaire,
jusqu'à l'âge de 16 ans. Jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire au brevet, au niveau du brevet. C'était en 1940. Hein, j'avais 16 ans, 17 ans. J'avais, entre autres, bien entendu, je m'étais arrêté quand même quelques mois parce que j'avais eu une pleurésie. Et j'avais fait même quelques temps de sanatorium. Enfin, j'étais rétabli physiquement, j'étais quand même en pleine forme. Mais à 16 ans, malgré tout, les nécessités du moment, les difficultés financières du moment, il a fallu que je rentre dans la vie active. Comment faire dans la vie active? Il y avait peu de travail, mais j'ai réussi quand même à rentrer dans les postes, dans les PTT. Et j'étais facteur. Et j'ai eu le bonheur, bien entendu, en 1940. Je suis rentré le 1er mai 1940, d'ailleurs, comme facteur, oui. La bonne période. Mais j'ai eu l'avantage d'être entré facteur, je vais me tourner dans la campagne, dans les environs, la région de Joux, etc. Et l'avantage d'un gars qui, comme moi, côtoyait les cultivateurs, c'était d'avoir du ravitaillement. Absolument tout ce que je voulais pour moi et mes amis. On faisait un peu, on abattait des agneaux, un peu de tout, et puis les cultivateurs, on leur donnait de petits services, ils vous les rendaient largement.
Après le 10 mai 40, vous n'avez pas fui, vous, quand le...
Pas de... Si, j'ai fui 15 jours.
Vous êtes parti où?
15 jours dans le Midi, du côté de Lunel.
Vous vous souvenez pourquoi vous avez fui?
Attendez, vous avez pas, c'est très simple. C'est très simple, on était quelques camarades, et puis on racontait un tas d'histoires. Les Allemands, attention, ils vont couper les jeunes, ils vont les fusiller, etc. Et j'avais un cousin qui était marchand de vin. Et son fils, qui était de Monas, avait son permis de conduire. Alors on est parti, 4 ou 5 camarades, chez des négociants avec qui il était en rapport à Lunel, des négociants en vin. Et nous sommes restés là-bas quelques jours, bien sûr, en jeunes gens, quoi, camarades insouciants d'ailleurs, à cette époque. C'était une pagaille effrayante à cette époque, c'était affolant, c'était... Rien ne tenait, rien ne se construisait, tout le monde était à U et à Dia, hein, sans savoir exactement où on allait. Alors on est parti, on est resté quelques jours, hébergé par des gens extrêmement sympathiques, qui étaient des fournisseurs de vin à mon cousin, et puis nous sommes remontés.
Les Allemands en région lyonnaise sont arrivés vers le 15 mai juin.
Oui, hein, donc à peu près.
Vous avez eu le temps de...
Voilà. Alors nous sommes remontés, bon, à Tarare, il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème s'il y a eu quand même un accrochage, parce qu'il y a un groupe quand même qui a résisté aux premières estafettes allemandes qui sont entrées à Tarare.
Des militaires
ou... Des militaires, oui. Mmh. Oui, il y a eu d'ailleurs un mort parmi les Français. Et puis il y a eu quelques Allemands de tués aussi. Il y a eu 7 Allemands de tués. D'ailleurs par un gars qui était courageux, fusil mitrailleur, qui était bien posté et... Caligné, malheureusement, bien entendu, il s'est fait abattre aussi par les renforts allemands qui venaient derrière eux. Vous savez, ils venaient en estafette, en sidecar, etc. Et ensuite, une autre mitrailleuse qui est venue, et puis qu'il a... Malheureusement...
Vous souvenez de son nom, cette
personne? Non. C'était quelqu'un, je crois que c'était quelqu'un du Jura, même. C'était un soldat du Jura, qui habitait le Jura. Natif du Jura, du moins. Ensuite, bien entendu, la tombe, on l'a enterrée sur place. Enfin bref, ensuite oui, le corps a été transporté chez lui. Exactement. Alors voilà, c'est la vie tranquille. Tarare était une vie tranquille. Il y avait 2-3 Allemands qui se promenaient, c'est tout. À cette époque-là, ils n'étaient pas trop dangereux. Hein. Du moins, ils s'efforçaient d'être aimables. Et moi, je vivais correctement avec des copains. J'avais 16, 17 ans, 18 ans.
Il ne faut pas nous laisser entraîner. Il ne faut pas nous laisser abuser. On voudrait bien nous désinformer. Mais un seul arbre ne peut cacher toute la forêt. Quand on nous parle de la jeunesse, on nous dit qu'elle est dépravée, qu'elle ne pense qu'à se droguer, qu'à se vautrer, à forniquer. Des jeunes, j'en connais des milliers, bien différents de ce cliché, tout au contraire, prêts à lutter, accrochés aux réalités. Il ne faut pas nous laisser entraîner, il ne faut pas nous laisser abuser. On voudrait bien nous désinformer. Mais un seul arbre ne peut cacher toute la forêt. Quand on nous parle de société, c'est souvent pour nous reprocher de ne penser qu'à consommer, d'être beaucoup trop développé. Des gens qui consomment, j'en connais, pourtant sont loin d'être saturés. Quand le mois à demi achevé, le porte-monnaie est desséché. Il ne faut pas nous laisser entraîner. Il ne faut pas nous laisser abuser. On voudrait bien nous désinformer. Un seul arbre ne peut cacher toute la forêt. Quand on nous parle de ces pays sur la voie de la liberté, on ne nous montre que les faux plis, que des défauts très amplifiés. Ces pays-là, je les connais, et si tout n'y est pas réglé, le premier pas, eux, ils l'ont fait, et sont pas prêts de s'arrêter. Il ne faut pas nous laisser entraîner, il ne faut pas nous laisser abuser. On voudrait bien nous désinformer. Un seul arbre ne peut cacher toute la forêt. Il ne faut pas nous laisser entraîner. Il ne faut pas nous laisser abuser. On voudrait bien nous désinformer. Mais un seul arbre ne peut cacher toute la forêt. Il ne faut pas nous laisser.
Mais le jour qui a été pour moi décisif, ça a été le 7 novembre 1942. C'est-à-dire le jour où Hitler a donné l'ordre à l'armée allemande d'occuper la zone libre. Parce que les Américains avaient débarqué au Maroc, en Afrique du Nord et en Tunisie. Mmh. Et alors Hitler, pour protéger bien entendu ses arrières, voulait occuper la Côte d'Azur et en particulier la flotte qui était à cette époque-là à Toulon. Toute la flotte française, presque intacte, était à Toulon. Alors, je me souviens, j'étais là, dans le centre de ma ville, Tarare, une ville de 10 000 habitants. Je voyais défiler, il faisait très froid ce jour-là. Je voyais défiler les colonnes allemandes qui rejoignaient Lyon et la Méditerranée. Et j'étais avec côté d'un homme d'une soixantaine d'années, fort bien habillé, un bon bourgeois. C'était un homme d'ailleurs qui avait une petite entreprise dans le pays, et qui était là, qui tendait son poing aux Allemands. Les Russes vous battront, les Russes vous battront, vous perdrez la guerre, etc. D'une façon extrêmement courageuse. C'était à l'époque de Stalingrad, puisque Stalingrad est tombé au mois de janvier suivant, et ça commençait à aller très mal pour eux. Pour moi, ça a été un choc. Je me suis dit, mais comment ? T'as 19 ans, t'es en pleine forme. Ce type-là, s'il avait ton âge, il s'est déjà engagé contre les troupes allemandes. Il se battrait, il rejoindrait De Gaulle, il rejoindrait peut-être l'Afrique du Nord, enfin, n'importe comment, il serait un combattant. Pour moi, c'était un choc. Bon, j'ai dit, à partir de ce moment-là, il faut faire de la résistance, il faut la battre.
Parmi les noms qui tenaient la vedette, certains d'entre eux se sont bien dépréciés. D'autres encore, parmi tant de grosses têtes, ont dans l'épreuve complètement perdu pied. On les croyait très bien qu'ils étaient moches, et c'est ainsi qu'ils se sont révélés. En préférant faire des sourires aux moches, par calcul pour stupidité. Et tout ça, ça fait de mauvais français, pour lesquels il n'est que le porte-monnaie. Faut savoir être opportuniste, afin de sauvegarder ses petits intérêts. Et ils se sont mis à grand coup de Vichy, au régime collaborationniste. Ça devient gênant, car tout de même c'est saleté, la fois qu'on puisse dire ça ne s'oublie pas. Mais à côté de cette beauté honteuse, dont la conscience est un billet de 1000 francs, il y a la France, fière, digne et douloureuse, toute la France et ses millions de braves gens. Parmi ceux-là est une élite rude, symbole vivant des vertus du pays, qui préférant tout à la servitude, arme à la main, arrive à qui. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, des hommes au grand cœur, sans fauchés, sans peur, qui combattent pour que notre France soit toujours à l'avant-garde de l'honneur, n'ayant simplement pour tout ralliement qu'un seul mot. Résistance étroitement unie comme des amis, oui, ceux-là se sont de vrais, de bons et d'excellents Français.
Mais comment faire? Je n'avais pas de contact. Je n'avais absolument aucun contact dans la résistance. Il y avait des embryons de résistants, bien entendu, mais c'était quand même une époque... assez légère à cette époque.
Surtout et à terre rare, pas d'organisation que vous connaissiez?
Pas d'organisation que je connaissais. Impossible de trouver quoi que ce soit. J'avais su qu'on pouvait passer en Espagne. Passer les Pyrénées, on se faisait emprisonner par Franco, 3 mois, c'était la tactique, et ils relâchaient, paraît-il, les gars dans le pays, à eux de se débrouiller. Mais il fallait passer les Pyrénées, il fallait trouver un passeur, etc. Bon, et j'avais pas de moyens, j'avais pas de possibilités. Et il a fallu que j'ai attendu comme ça l'hiver passé, au mois de mars 43. Le 3 mars, je suis incorporé dans les chantiers de jeunesse. Vous connaissez les chantiers?
À votre âge normal ou...
Normal, 20 ans. C'était la circonscription, ça remplaçait les circonscriptions d'autrefois, quoi. Vous savez ce que c'est que les chantiers de jeunesse?
Bien sûr, ouais.
Voilà. Hein, je suis incorporé à Saint-Laurent-du-Pont. C'est-à-dire dans l'Isère, à côté là, au 10e groupement. Bon, je suis au début, je suis dans les postes, aux centrales téléphoniques, puis ensuite je passe infirmier. Je ne sais pas pourquoi,
d'ailleurs. Belle promotion.
Pas pourquoi, hein, parce qu'à cette époque-là, c'était l'armée, le cordonnier faisait facilement cuisinier, ou le cuisinier, on le mettait, à l'entretien des chevaux, des armes, etc. Bon, je suis infirmier, bien tranquille. Bien planqué, parce que bon, on avait toujours des combines pour manger correctement, c'était tout. Puis c'est la vie de chantier de jeunesse.
Quel climat dans ces chantiers de jeunesse? Ils étaient maréchalistes, ils étaient plutôt
C'était partagé. C'était partagé parce qu'après les chantiers de jeunesse, grosse partie est passée dans les maquis. Une très grosse partie est passée dans les maquis. D'ailleurs, j'ai retrouvé, plus tard je vous expliquerai d'ailleurs, des gars dans le maquis, des chefs que j'avais, qui étaient dans mon maquis même, exactement le même que le mien. Ouais. Et alors bon, je me trouve, le temps passe, et les chantiers de jeunesse, on se servait de ces jeunes gens pour aller faire les grandes moissons, les vendanges, etc., les grands travaux agricoles, parce qu'il manquait de main-d'œuvre. Hein. Bien, nous, on est incorporés en tant que jeunes à Cogny, près de Villefranche, là. Un petit village à côté de Villefranche, chez un viticulteur. Et là, moi, je manifestais ouvertement mon désir de foutre le camp, j'en avais marre, les boches, les ci, les là, comme un type de 20 ans.
J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Irai-je avec eux, mamie? Garderez-vous les enfants?
Allez-y, car c'est poli d'être enchaîné plus longtemps.
La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Irai-je avec eux, mamie? Garderez-vous les enfants?
Allez-y, car c'est poli d'être enchaîné plus longtemps.
Nous ferons tous de la guerre, ces enfants sur vos genoux. Donnez-leur des idées claires pour qu'ils soient plus forts que nous. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Nous ferons tous de la guerre, ces enfants sur vos genoux. Donnez-leur des idées claires pour qu'ils soient plus forts que nous.
Nous ferons tous de la guerre, vous prendrez votre fusil. Et moi je tiendrai la terre et je prendrai les outils.
La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson.
Nous ferons tous de la guerre, vous prendrez votre fusil. Et moi je tiendrai la terre et je prendrai les outils.
Si on a fait la cartouche qui doit me toucher un jour, les derniers mots de ma bouche seront tous des mots d'amour. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Si on a fait la cartouche qui doit me toucher un jour, les derniers mots de ma bouche seront tous des mots d'amour.
Quand une journée s'achève, quelques salines partout, le blé nouveau qui s'élève, je l'ai sémé avec vous.
La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson.
Quand une journée s'achève, les fûts salines partout, le blé nouveau qui s'élève, je l'ai sémé avec vous.
J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson.
Un beau jour, un chef me dit, écoute, c'est vrai que tu veux partir dans le mécanisme. Je dis, mais... Et voilà, c'est pas compliqué. Tu vas déserter, quoi, bien sûr, une nuit tu pars, hein. Tu rejoins Grenoble, avec tout ton équipement, ton barda, bien entendu, était nécessaire d'avoir tout son équipement, tout son pactage, ce qu'on appelait le pactage à l'époque. Et à la sortie de Grenoble, tu auras dans les mains le nouveliste, un type va t'aborder, tu le suis, fut fait d'ailleurs, il m'aborde.
Grenoble-la-Gare
ou... La gare. À la gare de Grenoble. Le gars savait alors où je devais arriver, il me semble. Il me dit, voilà, t'as un journal, tu me lis à la main. Comme ça, tu te balades et puis ton pactage et tout, ton équipement de chantier de jeunesse, bien équipé et tout. Embarqué, je suis embarqué là-dedans. On part dans une voiture et on rejoint entre Grenoble et Chambéry, Pontcharra. Et au-dessus de Pontcharra, on part dans la montagne. Dans la montagne, et on tombe dans une cabane avec une dizaine de gars. Ni électricité, ni nourriture. Alors, pas de chauffeur, c'était l'automne. Pas d'armement, bien entendu.
Tous des jeunes recrues comme vous ?
Tous des jeunes recrues. On était une dizaine.
Et quel était le réseau qui vous avait...
Alors voilà, c'était justement le réseau, je vais vous en parler. C'était le service Périclès. Service Périclès, c'était surtout un réseau chargé de former des cadres. C'était une école de cadres. On appelait ça une école de cadres. Qui était dirigée par le chef dont je vous ai parlé, là, qui est le colonel Lagarde. C'était le colonel Lagarde qui dirigeait. C'était un réseau qui était plus ou moins sous l'orientation de...
C'est un réseau gaulliste, non ?
Gaulliste, mais était assez indépendant. Il a été ministre des prisonniers.
Ça me reviendra.
Ça va me revenir. Sur cette influence-là qui était très importante au point de résistance. Et la garde était sous ses ordres, bien entendu. On était incorporé là, alors on vivait des pommes, quoi. Hein, c'était l'automne. Un agneau, de temps en temps, quand. On achetait, quoi, qu'on était... Ou un autre qui s'égarait un peu loin du troupeau, hein, bon, on lui faisait sa fête. Enfin, ça a duré une huitaine de jours, pas très longtemps. Et je suis appelé au poste dit OPC. Pratiquement OPC. Et là, je suis convoqué devant... Les noms m'échappent un peu, bien entendu. J'ai un entretien avec une dame, d'ailleurs, une personne qui me dit, voilà, tu vas partir dans le Haut-Jura, dans la région de Saint-Cloud. Tu vas bien entendu perdre ton nom.
Ah oui, carrément.
Tu prendras ton nom de maquis, tu auras une fausse carte d'identité, mais tu n'auras qu'un nom de maquis avec toi, ni photo, ni appareil photo, rien qui puisse indiquer tes origines, d'où tu viens, c'est-à-dire qu'en cas où tu serais pris par les Allemands, même sous la torture, tu ne puisses pas donner d'informations. Exactement, c'était le terme. Et voilà, je pars à Saint-Cloud avec un autre copain d'ailleurs, un Vosgien. On part à Saint-Cloud et avant d'arriver à Saint-Cloud, on descend à Chassal, c'est-à-dire pas descendre dans la ville directement à la grande gare de Saint-Cloud. Saint-Cloud n'est pas une ville très importante, non, mais il pouvait y avoir des contrôles quand même. On descend dans une petite commune et on rejoint la région de la Moura. Rejoint la Moura de nuit. Et je me souviens là, j'ai eu la malchance d'ailleurs, quand j'étais à cet entretien avec cette personne, d'avoir laissé mon pactage à l'extérieur, puis il a été fauché. Alors je suis monté avec une chemisette à la Moura, même au mois de septembre.
C'est juste.
C'est juste. Et c'est là que j'ai retrouvé mon chef de groupe, de maquis, qui était là, un dénommé Schaeffer, d'origine alsacienne, qui lui m'a prêté son paletot. C'est un type alsacien assez... C'est un alsacien assez dur, bien entendu, très dans la discipline. Et là, je le vois, alors je lui dis, vraiment, t'es chic, là. T'es un peu plus chic que tu n'étais pas dans les chantiers. C'est-à-dire, quelques jours avant, il avait pris de ma équipe presque en même temps que moi, c'est pour vous dire.
C'est lui qui vous avait fait venir, non? Qui avait demandé qu'on vous...
Non, non, pas du tout, c'est tout à fait par hasard. Il était là quelques jours avant moi, il était guide un peu, d'ailleurs. D'ailleurs, il a été tué à Bellegarde. Juillet 44.
Et vous étiez combien de à arriver comme ça?
À l'arrivée, on était. Moi, j'étais avec mon copain, on était 5 ou 6, hein, pas plus. Et alors, on me dit voilà, il y a deux choses. L'une, tu rentres à l'école, ou bien on monte un gros fort. Moi, ce qui m'intéressait.
L'école, c'était quoi?
L'école, monter une école de.
De formation de maquiseur.
Voilà. Hein? Moi, mon but, moi, c'était de bouffer du boche, il n'y a pas de problème. Hein. Si c'est l'action. Mais c'était bien beau l'action, on était dans un maquis, on était une quinzaine de gars, dans ce gros franc, pas d'armement, une mitraillette pour 5 ou 6, 2-3 grenades, 2-3 revolvers. Que voulez-vous faire? Peu de choses.
Là, on était en avril 40.
Ah non, on était là en octobre 43.
En octobre 43, déjà. Et toujours pas d'armement.
Toujours pas d'armement.
Les Anglais livraient bien.
Très peu, ils livraient, bien entendu, mais le peu de parachutage, c'était dispatché un peu à tout le monde. Hein. Il y en avait un peu pour tout le monde. Hein. Et on reçoit quand même une mission. Il fallait quand même, les gars qui étaient dans les maquis, il fallait les équiper pour l'hiver. Le Jura, c'est pas la Côte d'Azur. Hein. Mmh. Bon, il faisait très froid. Mmh. Alors, comment faire? Alors, il y avait une source qui était intéressante, c'était les chantiers de jeunesse. Parce que les chantiers de jeunesse, bien entendu, c'était des camps qui étaient formés dans la nature, c'était pas dans les villes, hein, c'était des baraques, et avec un ravitaillement à se rouler par terre, des vêtements, des vestons de cuir, des chaussures neuves, etc. Et tout. On dit, bon, voilà, on fait un coup de ce Crotenay. Maquis de Crotenay qui était près de Dole, par là, j'en sais rien. Bon. Par un méchant car, on part là-bas, un vieux taco, une quinzaine de gars, une mitraillette dans une valise, quelques grenades, 2-3 revolvers.
Avec le risque d'être intercepté.
Intercepté. Puis attention, le chantier de jeunesse, c'est 800 bonhommes. Hein. C'était quand même pas de la rigolade. Hein. Alors comment faire? Bien entendu, on s'amène à 3-4 km du camp. Je raconte l'anecdote parce qu'elle est pas mal. On coupe les lignes téléphoniques, bref, tout fourmi. Puis dit, on va investir camp de la nuit. Ce qu'on fait. Alors il y a une partie du groupe qui va dans l'intendance, c'est-à-dire... chargé, il y avait des camions, etc. On avait nous, pas nos camions, mais les leurs. Fallait, et ça se partait au gaz au bois, vous savez, à cette époque-là. Il fallait mettre en route, c'était pas de la rigolade. Et nous, on immobilise le corps de garde, parce qu'il y avait un corps de garde comme dans l'armée. Hein. Il y avait une quinzaine de gars. On rentre là-dedans, on dit les gars, bougez pas, c'est le maquis. Hein. On veut pas vous faire de mal. Mais on est obligé de prendre certaines précautions, de vous attacher de sorte que les Allemands demain s'apercevront que vous êtes défendus et que vous étiez pas complices, etc. Mais enfin, on avait quand même une certaine trouille. Parce qu'on dit, on n'est pas nombreux, nous on était 4 ou 5. Alors, je raconte l'anecdote. On avait une mitraillette, deux chargeurs. On avait attaché nos gars là autour de nous. Et puis, pendant que les autres dévalisaient le camp, nous on surveillait, bon, puis d'un air assez sévère quand même. Bon, ne plaisantez pas. Alors, pour faire voir qu'on était tous armés, le gars qui gardait sortait, passait la mitraillette à un autre mec, qui rentrait avec la même mitraillette, pour faire voir que ça rigolait pas qu'on était armés jusqu'aux dents. Ça veut dire à peu près la plaisanterie jusqu'où elle allait. Hein. Enfin, tant et si bien, malgré tout, on lève le camp cette fois-là, et un peu on se réfugie en forêt, parce que les Allemands mettaient des barrages sur les routes aussi secs, l'alerte avait été donnée, enfin bref. Puis on a attendu que l'alerte passe. Mais il y a eu malgré tout, dans nos groupes qui étaient venus, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé, il y a 3 types qui ont été arrêtés quand même.
Ah oui.
3 types ont été arrêtés par la police française.
Tout de suite
Tout de suite, le matin, quoi. Hein. Je sais pas où ils étaient passés, j'en sais rien, le matin. Et de ces trois, il y en a deux qui sont venus de Dachau. Hein.
Les arbres, le vent, l'ombre et la charrette, un moment avant que le cœur s'arrête. Le moulin, la roue, les roses trémières, la brume se trouve d'un brin de lumière. On voit le chemin, pourtant sans le aujourd'hui, demain, que sert-il d'attendre? Les temps, les fossés, tout n'est que paresse. Pourquoi se presser, puisque rien ne presse? Une pluie de vagues tourelles, ou vaguement lui, le toit tourterelle. Le ciel a deviné dans le paysage l'air abandonné des choses d'usage. Qui donc s'y soucie de ce qui se brise? L'oiseau même ici passe par méprise. Les mois et les ans, aux chênes à l'érable, tout n'est qu'un présent incommensurable. Ai-je autre raison que celle des plantes aux lentes saisons, merci d'être lente. Mais ce sentiment en nous d'inutile, comment, pourquoi nous vient-il? Peut-être la nuit, peut-être le jour, si vite nous fuit pour aimer d'amour. Peut-être la nuit, peut-être le jour, si vite nous fuit pour aimer d'amour.
Voilà cette première opération pour vous dire à quel point c'était minable, quoi. Mais enfin, petit à petit, malgré tout, on arrive à avoir un peu plus d'armement. À part un armement terrible. Enfin, 2-3 mitraillettes de plus, 2-3 revolvers.
Qui venaient d'où? Des Anglais ou qu'on récupériez en France?
Des Anglais, il y avait les deux. Mmh. Il y avait les deux. Hein, il y avait les deux. Je me souviens, même moi, j'étais souvent en mission dans ce groupe parce que j'étais toujours volontaire, d'ailleurs, non pas que j'ai un courage plus qu'un autre, mais j'aimais bien la vie active. La vie active, plutôt de rester dans le camp, je préfère remplir des missions. Et j'étais toujours volontaire pour aller détecter des armes ou préparer des coups de main sur du ravitaillement allemand, etc. Alors, bien entendu, là, bon, pour l'hiver, notre groupe d'école était équipé. Hein, on leur a fourni les besoins de cuir, les godasses, toutes fourmis, en fait, il y avait absolument tout. Et, bien entendu, parfois aussi, récupérer, puis on attaquait quand on savait un petit groupe isolé d'Allemands, on l'attaquait, quoi, bien entendu. Quand,
oui,
quand
j'allais vous demander, certains, vous attaquiez quand, aussi quand, les militaires.
Ah oui, bien sûr. Quand on était sûr de notre coup, quoi, bien entendu. On n'attaquait pas une compagnie, hein. On attaquait des soldats isolés, récupérer leur armement, et puis aussi récupérer un peu dans la population aussi. Il y avait des fois des armes plus ou moins cachées. Hein, plus ou moins cachées. Un jour, on dit même, on m'annonce, parce qu'on est en relation quand même, avec des comités de l'armée secrète, quand même, des civils, qui nous informaient un tas de choses, qui nous informaient aussi sur des collaborateurs, sur des dénonciateurs, hein, des gars qui dénonçaient les maquis à la Gestapo. Hein. Alors là, il fallait faire le ménage.
Vous faisiez les opérations.
Le ménage. Hein, comprenez tout de suite, il fallait faire le ménage. Bon, alors, un jour, on dit, il me raconte une histoire, dit voilà, du côté de Morteau. Paraît-il que les groupes français, parce que qui étaient les soldats français qui étaient passés en Suisse, poursuivis par l'armée allemande, en Suisse, vous savez, on ne pouvait pas rentrer avec des armes. Les Suisses nous acceptaient, mais désarmés. On dit, il y a un paquet d'armes hein, du côté de Morteau et tout, bref. Moi, je suis parti un matin, à 2h du matin, c'était au mois de février, à pied jusqu'à Saint-Laurent du Jura. J'étais du côté de Moiran. Moi, à la montagne, à Pédibus. Hein. La neige s'est mise à tomber. Puis quand la neige tombe, là, c'était pas de la plaisanterie. Enfin, je suis arrivé chez mon informateur quand même. J'étais complètement crevé après. J'ai fait 40 km. J'avais 40 km. Je les ai fait après en voiture pour savoir combien il y avait de kilomètres. Il y avait 40 km. Mais enfin, j'avais ma pile. Hein. Je suis arrivé, il m'a donné une bonne soupe, là, et puis couché. J'ai dormi 10h, 11h. Et il dit, on va partir. On est parti du côté, par Besançon, par train, et arrivé jusqu'au lieu à Morteau. Et puis là, c'était de la plaisanterie. Il n'y avait pratiquement pas d'armes, très peu. On l'a récupéré, j'ai récupéré une caisse d'armement, et puis même de vieilles armes. Je me rappelle, il y avait même une carabine Moser de la guerre 14-18. Mais à peu près, hein, très peu de choses. Enfin, je suis revenu avec mon butin quand même. Mal ficelé, mais enfin, je suis revenu.
Avec un véhicule, quand même, pour transporter tout ça.
Non, par car. Car le train. Même le car, je me souviens, le car, je prends le car à Besançon pour aller jusqu'à Saint-Laurent, parce qu'à Saint-Laurent, j'avais des copains, Saint-Laurent du Jura, j'avais des copains qui m'attendaient.
Enfin, c'était pas
je me souviens, il y avait un Allemand. Il y avait, parce qu'il y avait des Allemands, c'était un garde-frontière, quoi, un douanier. Hein, il était avec son chien. Il était tout seul dans le car. Dans le car, j'essaie de mettre à côté de lui. Je suis tout heureux d'ailleurs, parce qu'il sentait que les gens étaient un peu hostiles, personne ne mettait. Moi avec lui, je ne parlais pas l'allemand, mais en souriant, etc., le chien gentil, tout, fourbi. Et devant lui d'ailleurs, à Saint-Laurent-du-Pont, la caisse est descendue, elle était sur le perron, est descendue dans son pif, et on voit, et puis c'est tout, voilà. Alors, c'est vrai, avec les Allemands, certains, il fallait avoir l'audace de les aborder, sauf la Gestapo, bien sûr. Tout hein, ça, les aborder, parce que certains Allemands, quand ils n'étaient pas en opération, comme ça, bon, ils cherchaient au contraire une liaison quelconque. Hein. Je me suis trouvé une autre fois aussi, en Lyon. Vous savez, les trains pour venir, ça mettait des heures et des heures. Il y avait un arrêt à Ambérieux. J'avais une barque comme ça, hier. Peut-être m'arrêter à un arrêt d'une heure en Berrieux, facile. Hein. Je sors de la gare 2, fais le gendarme, avec l'écolier là. J'étais carrément berreux, alors je leur ai expliqué. Merde, ils m'ont fait voir le coiffeur qui était là-bas. Tu sais le coiffeur, je vais en renard, un joli sourire, entrer, ils sont rentrés. Comment ils se méfiaient, ils n'étaient pas méfiants, ils n'étaient pas malins, ça aurait été des miliciens. Ou des gars de la Gestapo, c'était pas de la plaisanterie. C'était pas le moment de l'année. Ils demandent ta carte d'identité, le mouvoir, etc. Et puis, ils vous embarquent.
Dans toute cette zone du Jura, de Morteau, c'était la zone interdite. C'était une zone qui était plus contrôlée encore que le reste
mais
de
oui,
la France.
Mais oui, à cette époque-là. Enfin, c'était déjà tout occupé. Hein. Les zones étaient occupées. Hein. Mais enfin, c'était une région. Là, enfin, j'ai fait chou blanc, quoi. Ça durait 3 jours, la plaisanterie. Surtout, j'avais un correspondant, j'avais un gars de la Hesse d'une cinquantaine d'années qui était avec moi, qui m'avait recueilli à Saint-Laurent-du-Jura, quoi.
Comment vous expliquez qu'il y a eu cette embrouille sur le matériel? C'est pas...
Des bobards. Des bobards. Des bobards, vous comprenez, des gens... On racontait n'importe quoi. On racontait un peu n'importe quoi, c'était pas grave. C'était très... Et je vous assure, je trouve vraiment des... Ou alors il fallait trop vite tomber sur des dépôts de munitions. Il y a des heureux qui ont bien tombé, hein, parce qu'il y a eu quand même l'armée d'armistice. Quand les Allemands occupaient la zone libre, l'armée d'armistice a été dissoute. Il y a eu des planques d'armes. Mais pour notre cas, nous, on n'a pas eu de peau. Hein, parce qu'il y avait... Je pense qu'il y en a d'autres qui en ont profité. Mais nous, il n'y avait pas de peau. Nous, il y avait que l'armement qui tombait du ciel, à peu près. Hein, à 80%, notre armement était dû au parachutage.
Et vous avez croisé les groupes FTP, enfin, ils ont été actifs du côté de Besançon,
du côté de Besançon, non, j'en ai pas
vous
trouvé.
Pas de
on les a vus avant dans l'Ain, Jura, non, on ne les a pas avec eux. Nous, il y a à un moment donné, on voulait véritablement, avec un de mes camarades, on voulait même passer FTP parce que bon, on trouvait que notre action n'était pas assez brillante.
C'était à quel moment ça? En 43.
En 43, l'hiver, là, après l'hiver. D'autant plus qu'on avait toujours cet espoir de débarquement. Je me souviens même que quand j'étais incorporé en septembre 43, on me dit, écoute, je ne sais pas si on aura le temps de te faire ton instruction d'armement. Parce qu'on ne connaissait pas les armes. Hein. Le débarquement doit avoir lieu d'un moment à l'autre. Bon, je ne fais pas de dessin. Hein.
Ouais.
Alors, il y a des moments de désespoir, même, d'ailleurs.
Ah oui.
Sur Terre, certains gens, vous aviez Philippe Henriot qui, tous les jours à midi, qui est un orateur extraordinaire, hein, décupait son truc contre les Anglais, contre aussi les Allemands. Les Allemands vous pardonneront, vous rentrez chez vous tranquillement, etc. Vous êtes trahis, patati, patala. C'était tous les jours à midi, à la radio.
Et il a eu. On sait qu'il a... Ça a marché, quoi. Il y a des gens qui l'ont...
Il a pu marcher sur certains cas. Nous, moi, dans mon groupe, pour dire la vérité, il y a un Gouda qui sont partis. Mais quand on dit, nous, on part, mais on reviendra au débarquement. Très peu, hein. Insignifiant. Mais 5%. Mais des gars, quand même, qui... L'influence était là, tant et si bien que Philippe Henriot, il a fallu le dessouder, quoi.
Le roi des salauds ressemble à Hitler, Hitler au Führer et le Führer à Henriot. Ce qui fait qu'en fin de compte, le roi des salauds ressemble à Henriot comme deux gouttes d'eau. Et maintenant, veuillez écouter, transmis de Vichy, par fil coupé en quatre, ce slogan publicitaire de l'État français. La Révolution nationale a commencé avec un bâton et 7 étoiles. Elle finira avec une trique et 36 chandelles. Philippe Pétain, de son balcon, regardait la honteuse rangée de Faucheton, la brochette de sacré cochon, de Paul Marion, à de Brinon, d'Arnand, d'Oriot, Laval, Henriot, d'Anneta, il s'écria soudain. Y a-t-il des salauds parmi nous?
Tous, tous, tous!
Prennent tes pieds par terre, la Francisque à la main, c'est la fin, il n'en restera guère de ses enfants de Pétain.
Des trahisons, non? Vous étiez confronté à ça, des gens
On a eu des trahisons, bien entendu, parce qu'on a eu des attaques. On a eu des attaques importantes. On a été attaqué au mois de... On a été attaqué d'abord, alors ensuite, dans l'hiver, on a attaqué par les GMR. Les Allemands nous envoient les GMR, mais les GMR ont pas tenu le coup contre nous.
C'était à quelle date et où?
Mars.
Mars 44.
Mars 44.
Vous étiez où à ce moment-là?
Eh bien, dans le Haut-Jura.
Toujours dans le Haut-Jura. Alors,
toujours dans le Haut-Jura, Mars 44. J'ai toujours été là. Hein.
Ouais.
Bon, les Allemands, trouvant que les Jumeaux n'ont pas réussi,
Comment ça s'était passé, cette attaque de GMR?
L'attaque de GMR, bah oui,
nous on était... Le matin tôt
ou... Très tôt, bien sûr. Mm-hmm. C'était, par hasard, moi, je revenais de mission, j'étais dans le train. Puis je voyais les gants casqués, les flingues toutes fourmis. Je descends à Chassal, qui était en bas, parce qu'on était à Vaux. C'était un village assez en hauteur. Et je descends, et puis j'entends pétarader. C'est-à-dire, mon camp était attaqué. Moi, j'étais en civil, comment faire? Je ne pouvais pas traverser le camp des GMR. Mais il fallait que je le détourne. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je rejoigne des copains. Je retourne le camp pour rejoindre le camp. Mais mon groupe avait décroché. Mais je viens là, c'était le hameau était silencieux, tout, plus rien. Et je vais chez un paysan qui était des nôtres. Et je lui dis, bon, il me dit, voilà ce qui s'est passé. Il me dit, je crois qu'il y a un type qui est resté là, plus loin, avec un fusil mitrailleur. Alors j'y vais, quoi. Et je trouve mon bonhomme qui avait une balle dans le ventre. On l'appelait Grant parce qu'il faisait 1m93. Son nom de guerre, c'était Grant. Et alors, à ce moment-là, bon, il souffrait terriblement, puis il faisait pas chaud. Alors, j'ai alerté en bas le cantonnier de Dufel, qui était à Chancy, à côté de Chancy, un petit village à côté de Chancy, pour venir m'aider et de l'évacuer, quoi. Alors, on a évacué ce bonhomme sur une grande échelle, qu'on a mis sur un tombeau, vous savez, ces tombeaux de cantonniers qui avaient descendu par des chemins là-bas, tout en un crié. C'était un bon type, qui était un bon copain, quoi, hein, tout ça.
Il n'y a plus de GMR à ce moment-là.
Il n'y avait plus de GMR, ils avaient tout évacué. Alors on l'a évacué, et entre-temps, ils avaient alerté au village en bas un docteur. Toubi a dit, bon, moi je peux l'évacuer sur Yonax, et il est mort à Yonax. Il est enterré à Yonax. Même on a prétendu, un de mes camarades prétendu, parce qu'on ne connaissait pas son nom, que c'était un neveu à l'avionneur d'assaut. Mmh. Il s'appelait Khan. Son vrai nom, c'était Khan. Enfin bref, ça en est resté là.
Il y a eu d'autres morts côté Lakhizar ou côté JMR?
Non. JMR, certainement.
Ah, ouais. Vous avez
ça pas su.
Certainement. Il s'en vantait pas, quoi, quand
non,
il
non, 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 non. Jamais. Quand il y a eu une altercation après, parce que mon groupe était parti, et il a été accroché aussi un peu plus loin, avec des gendarmes français, des miliciens, etc. Et là, il y a eu une altercation, enfin ça a accroché, et on avait avec nous un garçon, c'était un juif, qui était chirurgien, qui lui était un type extrêmement dévoué et puis très humain. C'est lui qui a essayé de faire les transactions avec la police. Il a fait les transactions, il a dit je me prends comme prenez-moi comme otage, etc. Mais vous laissez passer. Alors la police en finale l'a gardé, n'a pas laissé passer, ça craquait quand même. Oui. Ça craquait quand même et enfin il a été déporté. Il est mort maintenant, c'était un chirurgien, un type remarquable, je connais son nom véritable. Son véritable nom, je ne connais pas.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts,
sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté.
Ainsi se termine cette émission, la première d'une nouvelle série de trois consacrée au résistant Roger Gaget. Cette première émission avait pour sujet l'histoire de sa jeunesse puis de son engagement au maquis que nous avons évoqué jusqu'à la période de mars 1944. Vous avez pu entendre successivement les illustrations musicales suivantes. Tout d'abord, les rues de Tarare, pour évoquer sa ville d'origine. C'est un enregistrement réalisé par l'école publique du boulevard Voltaire en 1985. Ensuite, Claude Vinci, sur ses paroles et sur la musique de Jean-Claude Petit, interprétait « La forêt et l'arbre ». Et puis c'est les octaves qui, sur les paroles de Pierre Dac et sur l'air de « Et tout ça, ça fait » interprétaient la chanson détournée de Pierre Dac. Ensuite, vous avez pu entendre la version originale du « Départ du partisan », cette chanson de Gilles Servat qu'il interprétait lui-même. Puis un instrumental sur la musique de Georges Brassens, la chanson pour l'Auvergnat. Ensuite, c'est James Olivier qui, sur sa musique et sur les paroles de Louis Aragon, interprétait « Meinert Obema ». Puis, de nouveau, des textes de Pierre Dac, interprétés par lui-même cette fois. Tout d'abord, « Le roi des salauds » sur l'air du duc de Bordeaux. Et puis, le slogan publicitaire. Enfin, nous avons entendu « Liberté », le poème de Paul Éluard, mis en musique par Yvonne Schmitt, interprété là par Claude Vinci. Dans notre future émission consacrée à Roger Gaget, nous évoquerons les actions auxquelles il a participé durant cette année 44, du mois de mars au mois d'août. Nous remercions Roger Gaget d'avoir bien voulu accorder cet entretien à Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, et plus particulièrement à l'intérieur de celle-ci, à l'émission Bistantlac. Bonsoir.
Son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistantlac. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistantlac. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en main mètre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé. On brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps. Qu'une chance qu'on les vise, mais on les claque. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est bistanque. Le printemps, qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, noircissent le printemps, qu'une chante qu'on les bise, mais on les claque. On se bise tant que là.